Le camp 303 se situait entre 450 et 600 km au sud du cercle polaire. J'avais trouvé 6 compagnons pour m'évader. Nous saisîmes nos sacs par les courroies de cuir que nous y avions adaptées pour pouvoir les porter sur le dos. Puis chacun entassa à la tête de son lit de la mousse en forme d'oreiller. Je dis aux autres « Tout va bien ?»«
Oui, oui. »
Personne n'a changé d'idée.
Mmh.
Allons-y. Je déposai mon sac près de la porte de sortie. Le camp était silencieux. Il neigeait toujours aussi abondamment. Je ne parvenais pas à distinguer le barbelé. Du mirador de l'angle sud-est, dont j'ai le plus proche, on ne devait pas voir à plus de 20 mètres. Nous pouvions remercier le ciel que, dans des lieux où l'on ne disposait ni d'eau courante ni d'électricité, il n'y eut point de projecteur. Le réseau de barbelés intérieurs était à une distance d'une centaine de mètres de la porte du baraquement. Et le succès de la première partie de l'opération tenait au fait que, durcis par le gel, les barbelés n'épousaient pas exactement le profil du terrain. Il y avait face à nous une dépression dans le sol où nous pensions pouvoir nous ménager, en déblayant la neige, un passage d'environ 2 pieds de haut. Nous nous glissâmes dehors, un à un, par intervalle d'une minute. Et Kolemnos me dit
« J'espère que... qu'ils auront creusé un trou suffisamment large pour moi. »
Je le regardais partir dans le noir à la suite des autres, tenant son sac sur son ventre afin de le pousser devant lui dans le passage, comme cela avait été déjà prévu. Puis ce fut mon tour. J'avais les mains toutes moites. Je jetai un dernier coup d'œil à l'intérieur. Tout le monde dormait paisiblement. Ensuite, je fonçais. Quand j'atteignis le barbelé, Smith était en train de le franchir. Deux étaient déjà passés. Les autres attendaient accroupis. D'angoissantes minutes s'écoulèrent encore, tandis que le sergent, puis Makovski, se contorsionnaient en ahanant, ventre plaqué au sol. La grande masse de Kolemnos s'engagea, tête la première, dans le passage, et je retins mon souffle. Il était à mi-chemin quand les barbelés accrochèrent l'encolure de son manteau. Il s'agita pour se dégager, et de petits fragments de glace se détachèrent des fils en rendant à son cristallin. « Ne bouge plus, Anastasie, ne bouge plus du tout !» De l'autre côté, quelqu'un avait récupéré son sac et allongé le bras pour essayer de le décrocher. Les minutes s'engrenaient, mâchoire crispée. Je me pris à compter les secondes sur mes doigts. Kolemnos demeurait absolument tranquille pendant que le camarade lui dégageait les épaules. Enfin, notre colosse se remit à progresser. Je lâchai une longue expiration et m'engageai à mon tour. Le premier obstacle était derrière nous. Il nous avait retenu 20 bonnes minutes. Après avoir mangé un bout de pain et fumé une cigarette, nous sommes glissés dehors. Il ne neigeait plus autant, mais le vent forcissait. Un froid glacial sévissait et nous étions courbattus et endoloris. Nous avions tous conscience qu'il importait de s'éloigner du camp au plus vite. Tout au long de cette deuxième nuit, nous avons alternativement couru et marché. Mes courbatures me quittèrent au bout d'une heure, remplacées par la douleur occasionnée par le sac qui me battait le dos. Pendant les 4 ou 5 premiers jours, nous continuâmes à marcher de nuit et à nous terrer pendant la journée. Rien n'indiquait qu'on nous donnait la chasse. Nous en conclûmes que, la neige de la première nuit ayant recouvert nos traces, les poursuites avaient probablement été lancées vers l'est. L'itinéraire le plus court pour des évadés est donc le plus vraisemblable. Relativement optimistes, nous nous félicitions d'avoir choisi de fuir vers le sud. Nous commençâmes à nous déplacer de jour, cheminant de front en formation dispersée et parcourant jusqu'à 50 km dans la journée. Par l'observation du soleil, lorsqu'il se montrait, et de la mousse, nous gardions approximativement le bon cap. Le huitième ou le neuvième jour, notre progression se fit sensiblement plus aisée. Le terrain descendait en pente douce vers le sud. Le sol laissait apparaître des touffes d'une herbe rude, bruissante, typique de la Sibérie. Il y avait davantage de mousse sur le tronc des arbres. Au début de l'après-midi, ce jour-là, la forêt s'éclaircit subitement et nous découvrîmes la Léna, recouverte de glace et d'une largeur dépassant les 700 mètres. Elle était déjà un fleuve imposant, alors qu'il lui restait encore à parcourir environ 2000 km avant de déboucher dans l'océan Arctique. Nous demeurâmes un moment à couvert, tendant l'oreille et ouvrant l'œil. La journée était limpide et le son devait bien porter. Mais tout était silencieux. Rien ne bougeait. Nos succès en matière de chasse étaient purement accidentels. Armés en tout et pour tout d'un couteau, d'une hache et de quelques bâtons, nous étions bien mal équipés. Il aurait été relativement facile de construire des pièges simples et efficaces, du modèle de ceux qui se rabattent sur la proie et qu'allaient tendre les soldats du camp. Mais la nécessité où nous étions de nous déplacer constamment ne nous accordait pas le loisir. Nous nous consolions en considérant que, tant que durerait notre pain, la farine et l'orge, ces petits extras occasionnels, poissons frais, lièvres ou gîtes ayant bondi trop tard, élevaient notre régime bien au-dessus du misérable ordinaire du camp. Le franchissement de la Barguzine eut lieu à la fin du mois de mai et ce fut le dernier des obstacles importants que l'eau plaçait sur notre chemin. Il semblait que l'été sibérien nous attendît sur la rive sud. Depuis l'extrémité nord du Baïkal, nous avions connu un climat printanier exceptionnellement clément et presque sans une goutte de pluie. À présent, le soleil donnait, tout verdoyait. Il y avait des fleurs et les oiseaux étaient de retour de leur migration lointaine. En 6 semaines, nous étions passés des dernières rigueurs de l'hiver de Sibérie centrale à la chaude caresse de l'été méridional. Dans les lointains, cerisiers et abricotiers en fleurs égayaient les vergers des villages. Dormir à la belle étoile devenait moins éprouvant, même lorsque nous jugions plus prudent de ne pas allumer le feu. La première phase de notre évasion, c'est ça avec le passage de la frontière russo-mongole à la fin de la deuxième semaine de juin. Deux circonstances notables. La facilité avec laquelle nous la franchîmes et le fait que nous sortîmes de la République autonome de Mongolie avec près d'un quintal de pommes de terre, des primeurs arrachées dans un champ quelques heures seulement avant de passer la dite frontière. Cette razzia est le moment où elle fut menée, à l'aube, le jour même où nous devions, quelques heures plus tard, quitter la Sibérie, nous remplir de jubilation. J'ai eu le sentiment que, ayant été expédié en captivité sans rien, nous repartions avec un beau cadeau de départ, même si c'était à l'insu des généreux donateurs. Vers la fin du mois de mars 1942, nous acquîmes la certitude d'être enfin tout près de ce sanctuaire qu'était l'Inde. Face à nous se dressait la barrière montagneuse la plus haute et la plus inhospitalière que nous eussions rencontrée jusqu'à présent. Nous nous dîmes qu'un ultime coup de collier nous porterait dans ce pays. On nous attendait la liberté, la civilisation, le repos et la paix de l'esprit. L'autobus redémarra pour me conduire au camp de transit, où je devais attendre un transport de troupes à destination du Moyen-Orient. Je me retournai et fis un signe de la main à mon dernier compagnon.
Hé, Sev, et prends bien soin de toi.
Je me sentais soudain privé d'amis, démuni de tout, aussi perdu et esselé qu'il est possible de l'être.
Ce récit a été contesté par plusieurs explorateurs. Slawomir Rawicz se serait, selon eux, inspiré du témoignage d'un autre Polonais nommé Witold Gliński. Il n'empêche que ce livre intitulé « À marche forcée » est à couper le souffle.